Chapitre 72. Juna est assis dans son appartement au dernier étage de Corner House. La couverture nuageuse, au-dessus des toits de Stockholm, est d'un gris monotone. Randy l'a appelé de son téléphone privé pour l'informer qu'il avait trouvé une note de l'ancien service de sécurité de la NOA. Celle-ci a été rédigée 2 mois après que Mara Makarov ait sorti d'ITRE. Une employée remplaçante de la société de nettoyage, engagée par le département de la sécurité, est entrée dans les archives alors que ça ne faisait pas partie de ses attributions. Elle a nettoyé le sol et les étagères de la salle où étaient stockés tous les documents relatifs à Jurek Walter. L'affaire a été confiée à la CEPO, qui n'a pas réussi à retrouver sa trace. Son employeur a été incapable d'expliquer d'où elle venait, ni à quoi elle ressemblait. Mara est aussi grise qu'une araignée, songe Juna. Des points lumineux et des corps flottants annonciateurs d'une migraine apparaissent soudain dans son champ visuel. Il retient sa respiration et ferme les yeux un instant. Son front a le temps de se couvrir de sueur avant que sa vision ne se rétablisse, que la douleur fulgurante se réduise et disparaisse. Il gagne la salle de bain en s'aidant du mur et saisit d'une main tremblante une plaquette de Topimax dans l'armoire. Il ne peut pas se permettre de perdre son acuité mentale. Juna prend un comprimé, range la plaquette et se dirige vers la cuisine pour se préparer à dîner. Il a prévu de faire revenir du salami avec des pois manchetous, des tomates cerises, de l'ail et du poivre, puis d'y ajouter des spaghettis, de la roquette et du basilic frais. Il aurait aimé ne pas avoir déçu Valeria. La voir assise là, sur l'une des chaises de la cuisine, et l'écouter parler pendant qu'il cuisine. Il saisit le téléphone et l'appelle. À chaque sonnerie qui passe, son angoisse augmente. Elle finit par répondre. « C'est moi, » dit-il. « Chérie, » répond-elle dans un murmure. Juna sent les larmes lui monter aux yeux, car c'est la première fois depuis le restaurant qu'elle l'appelle ainsi. « Tu dormais ?»«
Non, j'écoutais un livre audio. »
« Comment tu vas ?»«
Bien, un peu mal au dos. J'ai planté 25 arbres à Moraberg. C'est un peu loin, à la sortie de Södertälje.
Ah, je sais où se trouve Moraberg. » Juna entend qu'elle déplace quelque chose dans sa cuisine et se dit qu'il devrait lui proposer de venir dîner avec lui. Mais il ne peut s'y résoudre.
« Ça s'est bien passé en Allemagne ?»
demande-t-elle. « Oui, très bien. »
Et toi, comment tu vas?
Ça va.
Tu as mangé?
Je vais commencer à préparer à dîner. Il entend le bruit d'un bouchon qu'on retire d'une bouteille de vin, puis le léger glougloutement d'un verre qui se remplit.
Je tiens encore à m'excuser,
murmure-t-il.
Ce n'est pas la peine.
Je n'ai pas pris de drogue depuis. Je n'en ai plus envie.
C'est bien.
Et je te promets que je...
Juna,
l'interrompt-elle doucement. Tu as raison.
Je comprends que ton envie de sombrer soit liée à Jurek. À ce qu'il t'a chuchoté sur le toit avant que tu ne le pousses. À ses derniers mots.
C'est difficile à expliquer.
Peut-être qu'il te faut les formuler à voix haute pour être libre.
Je sens que je n'y arriverai plus, dit-il. En prenant une grande inspiration. Même si j'entends en continu son murmure dans mes oreilles.
Tu as conscience que Jurek ne peut pas te définir.
Juna entre dans sa chambre, se dirige vers la fenêtre et regarde la rue sombre de Lutmakargatan. Je crois que j'ai envie de garder ces mots en moi encore un peu, avoue-t-il.
Ça ne me semble pas très bon.
Peut-être parce qu'il me donne une dureté intérieure dont je vais avoir besoin dans les prochains jours. Juna l'entend boire une gorgée et poser son verre sur la table de la cuisine. Tu as du vin et j'ai des pâtes.
On devrait se voir,
répond-elle. Tu viens chez moi? Le faible grincement de l'ascenseur dans la cage d'escalier traverse les murs. «
Je vois bien que tu es absorbé par cette affaire. Ne t'occupe pas de moi, je vais très bien. Fais ce que tu as à faire, mais tu as besoin de ton cœur. Pas de dureté.
Ne raccroche pas, dit-il au moment où l'ascenseur s'arrête à son étage.
Fais attention à toi. Je ne peux pas te perdre,
continue-t-elle.
Oui. Tu entends?
Je te rappelle bientôt, dit Juna lorsqu'il entend que quelqu'un se tient derrière sa porte. Il pose le téléphone, attrape son pistolet sur la table, traverse le salon et se précipite dans le couloir au moment où la sonnerie retentit. Juna enlève la sûreté de son arme, la cache sur le côté et ouvre la porte. Il a juste le temps de voir les portes de l'ascenseur se refermer sur un livreur. Le petit paquet est posé sur le paillasson. Il s'en saisit, le dépose sur la table de la cuisine et contacte le centre d'intervention. Alors qu'il arrache le ruban adhésif de la boîte, un grésillement se fait entendre dans le haut-parleur.
« Rosanna Björn ?»
répond l'agent de garde. « Ici Juna Lina. Nous avons un nouveau paquet. Il est arrivé chez moi il y a 20 secondes.
Est-ce qu'il faut qu'on envoie une équipe de démineurs ?»«
Non. Je l'ouvre tout de suite.
On attend, »
dit-elle. Il entend contacter le central sur une autre ligne. Juna ouvre le paquet, déplie la première couche de papier journal et en sort une boule faite avec une feuille plus rigide. Il saisit la petite figurine en étain entre le pouce et l'index et la regarde. « C'est Manvirai. La figurine représente Manvirai, » crie Juna. « Je le contacte immédiatement. Envoyez toutes les voitures de la zone chez lui, c'est urgent. » Il raccroche et appelle Manvir tout en dépliant la feuille de papier plus rigide. C'est la page déchirée d'un livre ancien sur la mythologie nordique, écrit par un évêque nommé Olaus Magnus. Au centre, une gravure sur bois représente Odin et sa femme Frigg, la reine des dieux, portant une longue robe, un chapeau, une épée et un arc. Juste avant qu'il ne soit transféré vers la boîte vocale, il entend un petit déclic, puis un silence. « Juna ?» s'étonne Manvir. « Tu es où ?»«
À la maison. »
« Tu es la prochaine victime. Enferme-toi, on arrive. » dit Juna rapidement.
« Attends, qu'est-ce que tu dis ?»«
Tu as ton arme de service avec toi ?»«
Bien sûr. Greta et Peter sont là ?»«
Non, je suis dans mon appartement. Le paquet est arrivé chez moi. » explique Juna en notant quelque chose d'inhabituel dans la voix de Manvir. Tu es absolument certain que la figurine me représente.
Oui, je le suis.
Tu as verrouillé ta porte.
Oui, mais explique-moi. Quel est l'emballage? Quelle est l'énigme?
Il y a comme une interférence sur la ligne. Juna entend le bruit d'un camion de nettoyage au loin, puis un tic-tac rapide.
Je regarde l'énigme maintenant, dit Juna en lissant le journal froissé avec sa main.
L'un des articles parle du changement de nom de Globen, qui a été rebaptisé Avicii Arena. Et je n'y suis allé qu'une fois pour la Sainte-Lucie, mais pas depuis, continuons, l'interrompt Juna. Avicii a grandi à Östermalm. Il est enterré au cimetière Hedwig Eleonora et...
C'est pas ça.
Bon, au verso, il y a un petit article sur Colonial Pipeline qui a payé 5 millions de dollars à un groupe de hackers appelé Darkside. Poursuit Juna en marchant vers l'entrée.
« Ça ne me dit rien.
Tu as bien une salle de bain à l'étage, n'est-ce pas ?» demande Juna en enfilant son holster et sa veste. « Vas-y, allonge-toi dans la baignoire en mettant ton torse le plus bas possible, l'arme pointée vers la porte et reste là jusqu'à ce que... Ok, j'ai compris. » Juna attrape ses clés, quitte l'appartement, verrouille la porte et dévale les escaliers tout en continuant la conversation.